Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
750 milliards, 540 milliards et à nouveau 750 milliards. En Europe, les euros pleuvent en ce temps de sortie de confinement. Une sorte de gigantesque parapluie pour éviter chez nous notamment que le ciel ne nous tombe sur la tête. L'Europe serait au rendez-vous, au dire de certains, vivrait même un moment historique. Un pas de plus vers le fédéralisme, une intégration renforcée sans le consentement des peuples, disent d'autres. Comment y voir clair et que pèse l'Europe en Occitanie? Quel est son rôle? Enfin, comment nous-mêmes être un peu plus européens au quotidien? Autant de questions que je vous propose de voir ensemble ce matin. A-t-on du souci à se faire du côté de l'Europe? C'est le thème tout simple. Je ne sais pas si les réponses seront aussi simples que de l'émission Vivante Église ce matin. Pour nous en parler, autour du plateau, Daniel Cabanis, vous êtes ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole et chroniqueuse politique et société à Radio Présence. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, et vous aviez des petits soucis de santé, alors du coup vous êtes aujourd'hui par téléphone, mais on vous retrouvera avec plaisir dans nos studios prochainement. Guillaume Cros, vous êtes vice-président du Conseil régional, en charge notamment des affaires européennes, bonjour.
Bonjour.
Et Geneviève Saint-Hubert, vous êtes secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Elle présente en plateau. Merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Alors Daniel Cabanis, puisque vous avez la casquette notamment de notre... chroniqueuse politique et société, on va avec vous, mais ça n'empêche pas aux autres d'intervenir, essayer de faire un peu de décryptage. On s'y est déjà essayé jeudi dernier, mais ça vaut le coup de prendre du temps, davantage de temps en tout cas à propos de l'Europe, essayer de décrypter un peu ce qui se joue en ce moment en Europe. Si on doit, peut-être pour une fois, commencer par des choses concrètes, j'ai essayé d'additionner les milliards qui ont été annoncés pour les différents plans. J'ai noté, vous me direz si j'ai fait des bons calculs, que ça fait à peu près 2400 milliards en tout. Il y avait eu 750 milliards de rachats d'actifs dits toxiques. La somme serait montée à 1100. Après, il y a eu un plan à 540 milliards. Aujourd'hui, un plan à 750 milliards. Le compte est-il bon, Daniel? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ces différents plans?
Alors... si j'ose dire, le compte est bon, sans paraphraser une émission bien connue. Il est vrai qu'on a un sentiment un petit peu double par rapport à l'Europe. Au moment où la crise a démarré, on avait l'impression que chacun des pays était seul face à un problème sanitaire qu'il devait résoudre essentiellement seul parce qu'il n'y a pas, à quelques petits détails près, de politique sanitaire européenne. En revanche, sur le plan économique, chacun des États étant plus ou moins touché, les besoins sont considérables. Les pays les plus atteints, les plus touchés, ayant évidemment des besoins plus importants, on a immédiatement attendu, du moins dans certains pays, que l'Europe intervienne. Ça peut être de différentes façons. Ça peut être par des subventions directes, décidées unilatéralement par l'Europe elle-même à la demande des États. Ça peut être, et c'est plutôt vers cela qu'on s'oriente, vers des plans de financement collectif, ce qui est vite dit, beaucoup moins vite fait, parce que les décisions d'une telle ampleur reposent sur le consentement des États membres, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a, ce n'est pas vraiment nouveau, mais qu'il y a deux blocs au sein de l'Europe. Un certain nombre d'États considèrent que la solidarité à leur profit et au profit d'autres est au fond un devoir naturel de l'Europe, qu'il s'agit de l'aménager, de se mettre d'accord pour faire les choses le plus raisonnablement possible, mais que sur le principe, c'est notamment à cela que sert l'Europe, alors que pour d'autres États, beaucoup ont pensé pendant longtemps que l'Allemagne se rangerait définitivement de ce côté-là. Il y a les cigales et les fourmis. Eh bien, qu'elles dansent, les cigales. Tant pis pour elles. Lorsque les choses sont difficiles, ce n'est pas au raisonnable, au sage, entre autres, de reprendre la main. Celui qui l'a exprimé peut-être le plus brutalement, c'est le très jeune chancelier autrichien qui, avec une arrogance, je crois qu'on peut employer le mot, a essayé littéralement de moucher Madame Merkel, mais elle en a vu d'autres. Elle ne se laisse pas faire. Voilà.
Alors, Daniel Cabanis, le journal Le Monde, dans son éditorial, titrait une chance historique pour l'Europe suite à l'annonce donc, de la Commission européenne de ce plan de relance de 750 milliards. Vous l'avez dit, les forces en présence, il y a les cigales et les fourmis. On les appelle aussi les frugaux pour les fourmis, donc Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark. L'Allemagne est, on va dire, au cœur de ce jeu qui va prendre la présidence tournante donc de l'Union européenne en juin. Si on doit détailler un petit peu ces 750 milliards, Daniel Cabanis, c'est pas d'abord une émission d'économie, mais ça vaut le coup quand même d'expliquer quelle est la solution qui a été trouvée, qui est un peu à mi-chemin de ce que proposaient l'Allemagne et la France et des remarques des pays dits frugaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Alors, très sommairement, disons que le plan vers lequel on s'oriente serait non plus un plan de subvention, mais un plan d'emprunt commun qui pourrait être négocié selon des modalités uniques, ce qui ne serait pas le cas c'était chacun des États qui devait y procéder. Cela suppose remboursement. Alors qu'au départ, il y avait une idée de mutualisation
de la dette,
et en quelque sorte, ceux qui avaient des réserves auraient, enfin j'exagère un peu, c'est pas aussi simple que ça, mais pour simplifier, auraient payé largement pour les autres. Or ça, il y a un blocage absolu, là, des quatre frugaux, puisque c'est vrai que c'est comme ça qu'on les appelle, parce que la femme de la cigale et de la fourmi n'est pas populaire comme elle l'est chez nous dans les pays qui ne sont pas francophones ou de culture latine. Mais le résultat pratique, c'est quand même que grâce à la garantie des plus solides et malgré tout de l'Allemagne, la négociation de ce prêt peut se faire dans d'assez bonnes conditions. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 15 jours ou 3 semaines, mais la position adoptée par Mme Merkel, qu'on n'attendait pas tellement, parce qu'elle avait à plusieurs reprises manifesté un certain nombre de réticences ou de réserves, donc une forme de retournement courageux de sa part, ben, elle est suivie bien sûr par son gouvernement, hein, son ministre de l'économie qui était très hostile, c'est vraiment littéralement retourné, et l'opinion publique allemande suit à 60%. Ce qui est beaucoup dans la conjoncture actuelle et compte tenu des positions hostiles de ses voisins immédiats, je pense au Danemark, je pense surtout à l'Autriche.
Daniel Cabanis, j'ai lu que Jean Monnet avait dit que l'Europe se forgerait à travers les crises, en tout cas c'est comme ça qu'elle est née, et quelle crise, hein, puisqu'on parle évidemment de la Seconde Guerre mondiale pour la première. Des critiques, malgré tout, s'élèvent, enfin comme toujours, il y a les pros et les contres. Si la critique faisant avancer, certains disent qu'on fait un pas de plus vers l'intégration européenne, puisque donc la Commission européenne, c'est elle qui aurait aujourd'hui la capacité d'aller emprunter de l'argent, donc ces 750 milliards qui seront après distribués sous forme de subventions ou sous forme de prêts. C'est un pas de plus vers l'intégration, que pour remboursement de ce prêt serait mis en place peut-être un certain nombre d'impôts, notamment un impôt européen. Que répondre à ceux qui trouvent que cette intégration avance, mais qu'elle se fait sans le consentement des peuples, Daniel Cabanis ?
Alors, je crois qu'on ne peut pas donner la réponse qu'ils attendent ou qu'on va trop bien la leur donner. Je veux dire par là que pour le moment, c'est la Commission qui a la main. Donc, toutes les critiques qu'on a pu formuler à de multiples reprises contre la Commission, à savoir une institution technocratique qui n'émane que très indirectement du suffrage. D'ailleurs, les élections européennes, c'est du pipeau parce que les peuples ne s'y intéressent pas vraiment, faible participation et peu de relations entre les électeurs et les, et les élus. Bon, ça reste en partie vrai. Techniquement, le fonctionnement de l'Union européenne ne va pas changer immédiatement, mais les peuples européens ne vont pas s'y intéresser plus pour autant. Hein. Donc, la critique, elle reste. Mais en même temps, et c'est en cela que la remarque ancienne, dans des circonstances très, très différentes, de Jean Monnet prend, je crois, tout son sens, c'est que si ça marche, on peut s'apercevoir que, selon le bon vieux principe, l'union fait la force et que face à une crise absolument colossale, avoir réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de modalités d'une solidarité quand même très contrôlée est une bonne chose. Alors, l'argument, je crois, est très fort, mais en même temps, il est certain que dans plusieurs États européens, le souverainisme a marqué des points, y compris de la manière la plus sotte, parce que le repli frileux sur soi n'a jamais rien résolu. Et Laurent Geoffrin, dans plusieurs éditos, a montré à quel point, et il l'a fait avec beaucoup de finesse et d'intelligence, il est important que l'on continue à échanger, que l'on continue à partager, que l'on continue, même si le mot en France est parfois considéré presque comme une obscénité, que l'on continue à faire des affaires ensemble, et qu'il est illusoire, vain, stupide, contre-productif de s'imaginer qu'on sera plus fort, plus grand, si on se replie sur soi.
Alors avant de donner la parole à nos autres invités pour qu'ils nous donnent leurs sentiments, Daniel Cabanis, il y a une autre critique que j'ai vue circuler, c'est que l'ensemble de ces subventions et de ces prêts, qui actent donc une forme de solidarité européenne, hein, enfin en tout cas qui continue de l'acter, ne serait pas assez conditionné à deux choses, à une transition écologique réelle et au souci d'une justice sociale, et puis à des réformes nécessaires dans les différents pays qui vont être soutenus. Et là, on pense entre autres à l'Italie et à l'Espagne qui vont être a priori les principaux bénéficiaires de ce grand plan. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux critiques ?
Ces critiques, on peut tout à fait les entendre. Mais en même temps, je crois qu'il faut les manier avec précaution. Parce que on est quand même, c'est une parabole que tous les chrétiens connaissent bien, c'est la poutre et la paille. On est très très porté à voir les défauts, les faiblesses, appelons ça comme on veut, chez les autres, sans nécessairement regarder ce qui est de notre côté. Et d'autre part, il n'est pas du tout certain que la Commission européenne, si elle obtient finalement définitivement ce mandat d'un grand emprunt redistribué, ne pose pas un certain nombre de conditions. L'expérience de ce qui a été fait en Grèce, mais qui a infligé une souffrance terrible au peuple grec sur un arrière-fond de leçons, de bons comportements donnés, peut peut-être faire réfléchir. Il y a peut-être d'autres moyens que de jouer les grands justiciers supérieurs pour obtenir un certain nombre d'éléments de relèvement. Même les pays dits vertueux, et soyons clairs, la France n'en est pas, ont un certain nombre de points faibles. Et puis deuxième aspect, oh mon Dieu, quelle horreur, il pourrait y avoir un impôt européen. Ben, je suis comme tout le monde, les impôts ne me font jamais particulièrement plaisir au moment où je sais qu'on les paye, encore que maintenant avec le prélèvement direct, les choses sont un peu changées en termes de perception psychologique. Mais, faut pas être naïf, on ne peut pas imaginer que de l'argent emprunté tombe intégralement du ciel. Il est bien évident que il faut bien qu'il arrive de quelque part. Alors on peut mobiliser en partie de manière plus ou moins contrainte l'épargne, on peut introduire un impôt supplémentaire, mais si à terme cela doit permettre le sauvetage intelligent de l'économie, ce n'est pas plus mal. Et pourquoi faire toujours les oiseaux de malheur? Pourquoi ça ferait nécessairement au détriment de l'écologie? De Gaulle disait l'Europe, parce qu'il avait des raisons de scepticisme. J'aurais tendance à dire, et ne vous méprenez pas sur mes propos, l'écologie. L'écologie dans le sens de respect de l'environnement, protection, voire développement de cet environnement, au fond contre les agressions dont il a été victime pendant très très longtemps, c'était évidemment non seulement raisonnable, mais absolument nécessaire. Seulement, c'est pas n'importe quoi. Il faut bien voir que certains changements de comportement peuvent être obtenus et acquis sans rébellion des peuples, d'autres non. Modifier nos modes de déplacement, là il y a déjà un bon pas qui a été fait, même s'il reste beaucoup à faire. Mais nous ne sommes pas tous prêts à faire n'importe quoi.
Allez, on va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités. On leur demandera leur sentiment, entre autres Guillaume Cros, pour introduire la deuxième partie, concrètement, puisque j'aime bien cette expression, dans notre sud-ouest ou pour la région Occitanie, le mois d'avril, c'est plus 21,7% de chômage. L'Europe est présente en Occitanie. Guillaume Cros allait nous redire comment et elle est attendue à l'occasion de cette crise.
Église, Emmanuel Pella.
Attendu souci à se faire du côté de l'Europe, c'est pour rappel à la question que je pose à nos invités ce matin et le thème de cette émission autour du plateau. Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole et chroniqueuse à notre antenne. Guillaume Cros, vice-président du conseil régional d'Occitanie et en charge des affaires européennes, et Geneviève de Saint-Hubert, secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse. Guillaume Cros, vous êtes donc entre autres en charge des affaires européennes pour la région Occitanie. Tout d'abord, avant de peut-être nous donner votre sentiment sur ce qui a été dit en première partie, je voulais que vous nous redisiez En quoi l'Europe est un acteur majeur de la région Occitanie et qu'il est opportun de se poser la question dans ce sens-là?
C'est un acteur majeur pour des questions financières, mais pas que. Vous savez que les régions ont un rôle important à jouer au niveau européen. Il existe un comité des régions, auquel d'ailleurs je fais partie, qui donne des avis sur les politiques européennes, donc à la Commission, au Conseil. Il y a une vraie présence des régions, et je pense qu'il faudrait qu'elles soient encore plus présentes, même si les régions n'ont pas le même poids partout dans les pays européens. Elles ont plus ou moins de compétences, c'est plus ou moins, organisé. Et sur l'Occitanie, l'Europe, c'est en gros un peu plus de 3 milliards de crédits, 3,22 milliards investis sur une période de 6 ans. C'est pas négligeable.
Attendez, on vous a pas entendu tout à fait, vous dites 3 milliards, mais 3 milliards sur combien d'années ou par année? On n'a pas tout.
Sur une période de 6 ans, sur la période de 2014 de 2020, par exemple, on est sur du 3,2 milliards.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner une échelle de grandeur, c'est-à-dire qu'en fait, la région Occitanie, son budget sur la même période ou budget annuel est de...
En gros, c'est ce que j'allais vous dire. En gros, c'est un budget annuel. Voilà, c'est l'équivalent d'un budget annuel. Donc, ce qui est quand même important. Hein, et ce financement, c'est pour le climat, important, hein, bien évidemment, c'est pour l'économie, c'est pour la formation, c'est pour l'agriculture, et dans notre région, ça pèse beaucoup avec tous les débats qu'il y a autour de la PAC aussi. Vous voyez que c'est quand même très très large et très varié. Et c'est vrai que nous considérons, hein, nous pensons en Occitanie qu'il y a un vrai, ce qu'on dit, hein, il y a un vrai tandem Europe-région pour l'Occitanie et pour l'Europe. Je crois qu'il faut pas voir l'Europe uniquement comme un robinet à financement. L'Europe, c'est une idée, l'Europe, c'est un projet. Et c'est vrai que peut-être que cette situation-là, la situation qu'on a vécue avec, et cette mobilisation qu'il y a et qu'on a très bien vue sur la première partie de l'émission, va permettre d'aller plus loin. Parce que je pense que oui, effectivement, il faut qu'on aille vers un système qui soit beaucoup plus fédéral, beaucoup plus partagé, beaucoup plus mutualiste et qui tirera tout le monde vers le haut et les Autrichiens aussi. Il faut qu'à un moment, il y ait aussi ce pas qui se fasse.
Alors juste, et là, c'est vrai. Guillaume Cros, excusez-moi, je vous coupe pour avoir un petit peu de, comment dire, encore plus de détails. Quand vous dites, donc, on a bien compris, hein, c'est l'Europe ne doit pas être considérée d'abord que comme un robinet, mais on a besoin de toucher du doigt, peut-être de manière plus précise. Et j'ai noté que la première activité économique de l'Occitanie, c'était donc le tourisme, si je ne me trompe pas, 10% du PIB régional. Après, c'est l'agriculture. Sur ces deux points-là, qu'est-ce que l'Europe représente? Est-ce que c'est un appui, c'est un allié, ou alors on ne pourrait pas arriver à marcher sur nos deux pieds sans l'Europe?
Non, en fait, c'est l'inverse, hein, c'est l'agriculture.
Agriculture, pardon.
En termes d'emploi, c'est l'agriculture, ensuite le tourisme, et ensuite l'aéronautique.
D'accord.
Le tiercé gagnant, et donc qui sont au moins sur les deux derniers, les deux qui vont être gravement touchés par rapport à la crise. Le premier aussi, bien sûr, d'autant plus sa partie viticulture, et puis après on verra comment les choses vont évoluer. Mais oui, bien sûr, le lien là, si je prends la question du tourisme, c'est une compétence quand même qui est très, très régionalisée, mais il y a des financements, on peut avoir des financements de projets autour du tourisme via les fonds européens, bien évidemment. L'agroalimentaire, ben, c'est la PAC, hein, principalement, hein. Et c'est sur la période, toujours pareil, cette période-là de 2014-2020, on est sur, en gros, tout ce qui concerne les fonds agricoles. Alors du coup, c'est l'agriculture, le développement rural, hein, puisque vous savez que c'est quand même les deux piliers de la PAC, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même sur l'ordre de 1,9 milliard. Qui est très important par rapport à d'autres régions qui touchent beaucoup moins d'argent. Mais c'est parce que nous avons justement une agriculture qui est développée, nous avons un territoire avec des, avec une géographie qui est pas évidente, donc de la montagne, du pâturage. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi que il y a un financement qui est plus important. Donc oui, c'est pour nous c'est extrêmement important. D'ailleurs aujourd'hui, alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais il y a un certain nombre de financements, il y a une volonté de recentralisation d'un certain nombre de financements que l'on conteste, hein, de la part de l'État, hein, parce que il y a une volonté de remonter la gestion de certains budgets au niveau national. Je pense qu'il ne faut pas, la région est le niveau pertinent pour faire de la dentelle sur les territoires, parce que ce sont elles qui connaissent réellement leur territoire.
Alors l'aéronautique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup à cette antenne, mais et puis il est facile d'imaginer à quel point l'Europe et l'aéronautique, on va dire, consonnent dans notre région, hein, puisque ce n'est un mystère pour personne que Airbus est une entreprise européenne. D'ailleurs, oui. J'entends le téléphone sonner, je pense qu'on a perdu Daniel Cabanis. Je me permets de passer le message aux techniciens. J'ai vu que la région européenne, donc pour faire face à la crise actuelle, était donc mobilisée. J'ai noté ce chiffre, donc plus 21,7% de chômage en avril. On a entendu parler des 16 millions de masques distribués. Parmi certaines mesures, j'ai noté un fonds fonds tourisme Occitanie, qui serait un fonds région Europe, un fonds de près de 100 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que ce fonds tourisme Occitanie, Guillaume Crosse?
Alors, il y a plusieurs choses. Sur le volet touristique, il y a donc ce fonds-là, qui, alors avec la Banque des Territoires, avec les départements, avec les intercommunalités, en fait, le but, c'est pour le tourisme, pour les entreprises de tourisme, mais aussi le commerce de proximité et l'artisanat, en fait, c'est de pouvoir venir aider ces entreprises qui vont avoir à faire des investissements pour justement appliquer les mesures sanitaires appropriées. Et c'est vrai que ce sont des investissements qui sont extrêmement importants pour les entreprises.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple, Guillaume Crosse, pour qu'on comprenne? On n'est pas tous dans le secteur du tourisme?
Des avances remboursables ou d'aide à la trésorerie. Si vous avez, il y a nécessité, d'acheter des produits spécifiques, il y aura nécessité de faire de la distanciation, donc d'avoir un revenu moins important. Donc voilà, tout ça sera compensé ou pris en charge pour pouvoir permettre à ces établissements d'ouvrir dans des bonnes conditions sans que ça leur coûte plus d'argent d'ouvrir que de pas ouvrir. C'est vrai qu'il y a une forte nécessité. Hein.
Donc ça veut dire qu'on entend, excusez-moi je vous coupe, hein, comme on se voit pas, c'est vrai que c'est difficile. Il paraît que c'est d'ailleurs le grand problème des journalistes à l'occasion du temps de confinement, même si là le confinement est fini. Donc excusez-moi et je m'excuse auprès des auditeurs, mais ça veut dire qu'il y a deux volets dans ce fonds tourisme, pour ceux qui par hasard en seraient parmi nos auditeurs ou seraient proches. C'est qu'à la fois vous soutenez pour investissement, mais aussi, c'est une forme de subvention. Tout ne devra pas être remboursé comme...
Non, tout ne devra pas être remboursé. On est bien sur les deux choses. Hein. D'une part, des avances remboursables, d'autre part des subventions d'investissement. On est bien sur les deux. C'est 80 millions qui seront réservés là-dessus. Et donc, le fonds entre en vigueur aujourd'hui même, hein, le 4 juin. Sera donc effectif jusqu'au 31 décembre. Dans tous les cas, si vos auditeurs ont des questions, il y a un numéro, le 3010, hein, qui permet donc de joindre la région et le service de la région. Et sur les aspects plus économiques, c'est 0831-3101. Et là, ils auront la réponse à toutes leurs questions. Hein, voilà.
Alors, il y a donc côté, on va dire, région tourisme, ce fonds que j'avais noté, fonds tourisme Occitanie. Est-ce qu'il y a d'autres, parmi les annonces qui ont été faites, je pourrais en citer d'autres que j'ai notées, d'autres des annonces qui ont été faites par la région pour accompagner cette crise, dans lesquelles l'Europe intervient? J'ai noté entre autres le plan de relance et de soutien à l'égard des viticulteurs. Est-ce que ça aussi l'Europe a sa part, Guillaume Crosse?
Oui, bien sûr. Là aussi, alors, vous savez, en fait, sur le financement, dès le début, hein, il y a eu de l'argent européen pour financer les actions d'urgence. Sur les achats, vous avez parlé de l'achat des masques et des 16 millions de masques, il y a eu là aussi de l'argent européen qui a été mobilisé. Hein, et c'est vrai que ça qui n'était pas prévu au départ, donc il y a eu une négociation avec la Commission pour qu'on puisse utiliser cet argent-là pour ça. Il y a eu aussi de la réorientation de financement, des financements qui étaient prévus et qui, vu la période, n'ont pas pu se faire, ont été réorientés vers de la relocalisation ou des choses comme ça. Donc l'argent européen aussi, il a été présent aussi dès le départ pour venir répondre à l'urgence. Alors, bien évidemment, sur la viticulture, la filière viticole, là aussi, il y a eu de grosses difficultés, principalement sur la commercialisation, hein, bien sûr, les restaurants étaient fermés, il n'y avait plus de possibilité de déplacer, hein, donc de faire du commerce au niveau international. Donc là aussi, hein, il y aura un plan de relance qui sera mis en place, hein, qui est mis en place, qui est de l'ordre de 7 millions d'euros, où là, l'idée, c'est de faire un plan de relance qui fasse que 1 euro investi par la région, c'est 1 euro investi par l'entreprise qui demande donc le financement ou par l'interprofession. Voilà, 1 euro de la région, 1 euro de l'entreprise ou de l'interprofession.
Guillaume
voilà.
Creuse.
Oui, pardon.
Pardon, excusez-moi, je vous coupe encore, mais allez-y, finissez.
Non, je disais que c'est pareil, il y a un aide direct à l'entreprise, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est bien dédié à un aide direct à l'entreprise.
Guillaume Creuse, on entend donc que en fait, en se penchant un peu dessus, pour ceux qui en douteraient, en fait, l'Europe est très présente en région Occitanie et que sans l'accompagnement, le soutien et l'engagement de l'Europe, l'Occitanie ne serait pas ce qu'elle est. Comment vous qui êtes en charge des affaires européennes, faire en sorte que l'Europe soit vue autre chose qu'un robinet, justement, d'où viennent les milliards?
C'est une très très bonne question. C'est ce qu'on essaie de faire depuis que j'ai en charge ces politiques-là, et bien sûr avant aussi mes collègues, mais il y a vraiment cette volonté de montrer ce que je disais tout à l'heure, l'idée qu'il y a un tandem Europe-Région. Mais je pense que la responsabilité, et donc il faut continuer à faire ce travail-là, il y a des acteurs qui le font, Madame Saint-Hubert est une de ces actrices-là, parce qu'ils font un travail très très important, et donc il y a nécessité d'expliquer, de faire savoir. Mais je crois qu'il y a, c'est aussi un petit peu ce que vous disiez au début de l'émission. Il y a aussi la petite musique qu'on raconte au niveau national et au niveau européen. Vous savez, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, quand ça c'est pas bien, c'est la faute à l'Europe, quand c'est bien, c'est grâce à moi. Et je crois qu'il y a un travail là vraiment important à faire. Et il faut, si vous voyez, si l'Europe n'avance pas comme elle devrait avancer, c'est souvent à cause des égoïsmes d'État. C'est pas à cause de l'Europe, c'est à cause des égoïsmes d'État. Qui disent très souvent, encore une fois, qui peuvent avoir une grande volonté d'Europe affichée, mais qui derrière, ben, vont recentraliser, vont vouloir. Ne vont pas vouloir qu'il y ait un financement, qu'il y ait un impôt européen, parce que je pense que l'intégration passe aussi par ce niveau-là, que l'Europe trouve d'autres ressources. Et c'est vrai que ce qui s'est passé là avec cette emprunt, cette volonté d'emprunt, j'espère que ça va aller au bout, au niveau global, et cette répartition qui ne se fait pas en fonction qui se fait aussi effectivement en fonction de la clé de répartition habituelle, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Il faut aller vers ça. Il faut montrer que cette Europe-là, elle est interdépendante, que les régions sont interdépendantes, que les pays sont interdépendants. Et ce n'est que comme ça qu'effectivement, ben, on verra l'Europe positivement. Vous savez, les étudiants, ils voient l'Europe positivement. Tous les gens qui sont passés par Erasmus, il y a cette ouverture-là, ce sont des Européens convaincus. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment que nous, qui sommes sur le terrain, qui avons des liens avec l'Europe et passer au niveau européen, c'est pas nier les spécificités.
Guillaume Cros, juste, je vous coupe à nouveau, je prie de m'excuser, mais j'avais une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on retrouve Madame Saint-Hubert. En tout cas, je vous remercie parce que chacun est très, on va dire, très sage, chacun reste sur sa partie, mais c'est, évidemment, vous êtes tous les trois compétents sur tous les sujets qu'on aborde, mais on profite de vos compétences les plus spécifiques. J'ai lu ou je me suis dit que, et puis c'est quelque chose qui est dans l'air, que cette intégration, que ce plan de relance européen, au final, pouvait accélérer ou précipiter la réforme de la PAC, la politique agricole commune, qui représente donc une grosse part du budget européen. Je crois que c'est plus de 30%. On sait que la France est la principale bénéficiaire de la PAC. La région Occitanie, vous l'avez dit, le secteur agricole est le premier secteur économique. Si demain, la PAC disparaît ou est réformée, et que la France n'a plus cette manne, ça peut avoir des conséquences graves dans la région Occitanie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la région Occitanie ?
Alors, l'épée de Damoclès, c'est pas la disparition. L'épée de Damoclès, c'est que cette PAC ne s'adapte pas et ne tient pas compte des enjeux d'aujourd'hui. Bien évidemment, il faut maintenir les budgets de la PAC. Le départ de l'Angleterre a fait que ça a été amputé, il paraît important d'être amputé. Il y a nécessité de réadapter cette PAC de façon à ce qu'elle soit réellement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire tenir compte, faire vivre les agriculteurs dignement, produire des produits sains.
Mais on connaît son importance, Guillaume Cros, mais est-ce que vous avez une inquiétude ? C'était le sens de ma question.
À l'inquiétude, elle est d'une part sur le niveau de financement et d'autre part sur le fait qu'elle ne s'adapte pas aux enjeux actuels et principalement aux enjeux climatiques. Et contrairement à, peut-être à ce qui a pu être dit tout à l'heure, les enjeux climatiques sont de formidables moteurs d'activité. Et je crois que là, si l'agriculture ne fait pas ce vrai virage, poussé par le Green Deal, et là du coup, j'espère que le Green Deal les annonces qui ont été faites sont des annonces fortes, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout, puis là aussi, il a l'air d'y avoir les moyens. Donc on va trouver des moyens, y compris pour la PAC, de lui faire faire ce virage qui permettra donc aux agriculteurs de vivre de leur travail, de produire des produits sains, de pas subventionner des produits de basse qualité que l'on va exporter vers des pays, d'autres pays. Voilà, tout ça, je pense que il y a un vrai enjeu. Il semblerait que les discussions vont être prolongées, puisque normalement on devrait avoir une nouvelle PAC au 1er janvier l'année prochaine, mais là, vu qu'il y a eu les élections, vu ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, ça va être un petit peu repoussé. Donc prenons ce temps-là, pour construire une politique agricole commune qui soit réellement fidèle et qui tienne compte réellement des nouveaux défis.
Eh ben, merci beaucoup Guillaume Cros de tous ces éclairages. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses grâce à vous et merci d'avoir été pédagogue. Quand vous parlez du Green Deal, cela peut être indirectement donc ce plan de relance qui est conditionné à l'application, en tout cas au fait de tenir compte de la transition écologique, mais ce Green Deal, c'est surtout cette annonce qui doit être confirmée du plan pluriannuel de l'Europe, du prochain, appelé New Green Deal, à hauteur de plus de 1 000 milliards d'euros. L'Europe serait à la veille de se lancer dans ce grand plan. On fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver Geneviève Saint-Hubert. Guillaume Cros vous a présenté l'importance de la Maison de l'Europe à Toulouse pour essayer de nous aider à comprendre comment l'Europe peut être dans notre quotidien et comment nous-mêmes on peut poser des petits pas européens. On va voir ça tout de suite.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Attendu souci à se faire du côté de l'Europe, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous Daniel Cabanis, ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole, chroniqueuse politique à Radio Présence, Guillaume Cros, vice-président du Conseil régional et en charge des affaires européennes notamment, et Geneviève Saint-Hubert, et non pas de Saint-Hubert, directrice de la Maison de l'Europe à Toulouse. Ça vous fait sourire, tant mieux.
Oui, ce qui me fait sourire, c'est ses secrétaires générales aussi.
Ah, secrétaire général, dites donc.
Mais tout va bien.
Il faut que vous veniez plus souvent. Merci de votre patience. Je changerai mes tablettes, c'est promis.
Pas de problème.
La Maison de l'Europe. Alors, on vous invite régulièrement à cette antenne, mais si vous deviez re-représenter la Maison de l'Europe en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, c'est une association, loi 1901, qui existe depuis 1986, dont la mission est l'information, la formation et l'animation européenne. Et elle a en plus l'avantage, mais par appel d'offres, hein, donc elle le gagne, cet avantage, d'être un relais de la Commission européenne, des institutions européennes pour l'information et la communication. Et nous sommes en Occitanie, 5 centres Europe Direct.
Alors ça, c'est la présentation. Le défi que je vous ai lancé en vous invitant à cette émission, c'est de nous donner des pistes pour nous aider à comprendre comment, en dehors du fait d'aller voter ou pas à l'occasion des élections, on peut faire des petits pas européens. Alors vous m'avez suggéré quelques réponses. La première concerne le monde agricole, puisque c'est donc la première activité économique de l'Occitanie. Et on a entendu Guillaume Cros nous redire l'importance du soutien de l'Europe. Faire des petits pas européens, vous vouliez prendre l'exemple du passage d'une exploitation de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio. Là, l'Europe est un partenaire et c'est un pas que l'on fait avec elle.
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais, pour recontextualiser, parler de ce Green Deal, qui, en français, c'est le pacte vert, et qui est le prochain défi de la prochaine Commission européenne. Hein. Moi, j'ai l'habitude, on est en train de finir de fêter les 70 ans de la déclaration de Schuman. Je dirais que l'enjeu, aujourd'hui, est aussi important que ce qu'était donc la mise en commun du charbon et de l'acier et la création de l'Europe dans les années 50. Si l'Europe ne passe pas ce contrat, donc ce pacte vert, et n'arrive pas à mettre en place une économie qui effectivement prépare à la transition climatique et écologique et la protection de la biodiversité, eh bien, en effet, là, on a du souci à se faire. Mais on n'en est pas encore là, puisque, avant d'aborder ce que vous me demandez, en effet, on a pu voir que, malgré tout, malgré le fait que la santé ne soit pas une compétence exclusive de la Commission et de l'Europe, malgré tout cela, eh bien, même les États qui étaient divergents, on le voit, ont fait preuve de solidarité, parce que dans un cas comme ça, si on ne fait pas preuve de solidarité, les frugaux, les pas frugaux, on a tous aussi du souci à se faire. Ça, c'est le premier point.
Alors, l'exemple. Exemple donc d'une exploitation conventionnel au bio, l'Europe en fait est un partenaire, expliquez-nous pourquoi.
Alors il y a des fonds, Guillaume Cros a bien expliqué que ce sont des financements, hein. La PAC finance, co-finance donc des actions dans les différentes régions d'Europe et ce fonds européen agricole pour le développement rural qu'on appelle le FEADER vient co-financer des actions. Et j'en ai souligné deux. Alors, une qui est dans l'Aveyron, ça s'appelle Ségalé. C'est une entreprise donc, qui fait des produits laitiers. Et là, elle a bénéficié pour le financement d'un laboratoire. Là, on n'est pas dans le passage bio, mais je vais y venir. De 10 600 euros du FEADER sur un projet total de 50 000 euros. Vous voyez, la proportion n'est pas la moitié, mais en tout cas, c'est un co-financement qui est venu aider cette mise en place. Et ensuite, j'ai pris l'exemple d'un AMAP, donc une AMAP plutôt, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, la ferme de Fondenise à Lille-sur-Tarn, qui donc a pu monter une serre qui fait de l'agriculture bio et qui donc, pour pouvoir à la fois élargir les saisons, maintenir plus au chaud les plantations biologiques, donc a bénéficié, je n'ai pas les proportions, mais a bénéficié aussi d'une aide du FEADER pour cela. Donc, l'Europe vient abonder, cofinancer à des hauteurs qui sont dans les dossiers, hein, pour passer donc à cette agriculture bio. Et vous le savez, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et je crois qu'avec ce qui vient de nous arriver, la relocalisation, etc., éviter les frais de transport, de pollution, etc., d'emballage, on va vers ça.
Alors, vous aviez un deuxième exemple très concret à nous donner, c'est la question des droits. Vous laissez entendre par là que l'Europe est un niveau de droit qui peut nous rendre service et nous protéger. C'est parfois dans le sens inverse qu'on le voit. On peut déplorer, et il arrive qu'à cette antenne, certains le fassent, qu'il y ait une sorte de supranationalité par rapport au droit français sur certains sujets. Vous vouliez prendre l'exemple des billets d'avion. Merci d'avoir été aussi simple. Nombre d'entre nous devaient voyager, leurs vols ont été annulés, mais les billets ne sont pas remboursés. Vous dites que là, l'Europe peut aussi intervenir et être une aide concrète, c'est-à-dire ?
Oui. Alors, avant de répondre à la question, effectivement, Guillaume Cros a dit que l'Europe, ce n'était pas que des financements, et moi, j'insiste sur cet aspect citoyen, ce sont aussi des droits. Maintenant, en effet, on peut les critiquer. Ce sont des droits supranationaux, nous avons nos droits français, et il y a un droit européen, et pour faire avancer ce droit européen, il y a des institutions, et il y en a une. Et tous les 5 ans, nous élisons nos représentants. Donc là aussi, je crois que le peu d'intérêt que les Européens portent à l'Europe doit se manifester un petit peu plus. Si on ne veut pas que les autres fassent à notre place, eh bien, vous le savez bien, il faut aller voter, quel que soit le vote. Ceci étant dit, il y a des droits. Et avant de passer aux droits des avions, je veux souligner aussi ces droits de ces citoyens européens qui ont été rapatriés grâce à l'Union européenne. Il y a eu plus de 500 000 rapatriements, donc au niveau global, hein, où l'Europe a mis de l'argent pour aller chercher ses citoyens et les ramener donc en Europe. Et après, de là, chacun est reparti chez soi.
Et faire valoir leur droit donc à être rapatrié, en l'occurrence aussi.
Tout à fait. Et ils ont été rapatriés, bien sûr, gratuitement. Alors, venons-en aux droits des consommateurs. On a parlé des droits d'éligibilité, d'élection. Les droits des consommateurs, je crois qu'il est assez peu connu qu'il existe 30 centres de consommateurs au niveau européen. Je veux parler, pour ce qui nous concerne, de celui qui se trouve à Strasbourg, hein, qui est le transfrontalier avec l'Allemagne. Et on peut, en effet, s'adresser à eux très facilement sur plein de sujets. Que ce soit pour les étudiants Erasmus que vous évoquiez tout à l'heure, qui payaient des loyers, comment est-ce que ça se passe au niveau de la crise sanitaire, comment est-ce qu'on peut, quel est le droit, etc. Vous voyez, ça porte sur plein de choses. Lorsque, effectivement, les avions ont commencé à être annulés, etc., cela a posé beaucoup de problèmes. Pour donner un chiffre, 17 000 demandes, pas pour les avions, hein, mais en général, pour des litiges d'achat aussi par internet, transfrontalier dans un autre pays, ont été traités par les centres européens des consommateurs. C'est dire toutes ces questions de droit qui se posent, et ça, c'est le droit européen qui peut les traiter. Alors, pour un billet d'avion, voilà, alors moi, il y a plusieurs choses.
Imaginons que j'avais un billet, il a été annulé, et ça fait 5 fois qu'on m'envoie un mail en me disant qu'il faut que je patiente parce que je vais être remboursé. Est-ce voilà. que là, l'Europe, quelque part, me protège? Et si oui, comment?
Oui, alors, il y a 2 types de démarches qui vous sont expliquées sur ce site, le Centre européen des consommateurs. C'est très, très simple, vous tapez ça. Vous avez également une application gratuite sur les droits des consommateurs, c'est ecc-net.travel. Et là, vous l'avez sur votre téléphone, vous avez une galère et en direct, vous pouvez interroger le centre via son site internet. Donc, pour les billets d'avion, il y a 2 types de démarches. Il y en a une qui est la première, qui est à l'amiable. On va sur ce site, on voit quels sont les droits, ça dépend des compagnies. Il faut bien lire ce que proposent les compagnies, parce que bien sûr, il n'y a pas un oukaz qui tombe de l'Europe et qui dit il faut rembourser. On vous explique tout ça. Vérifier ses droits, contacter la compagnie aérienne, négocier avec eux. Il faut aussi savoir qu'il y a un médiateur du voyage et du tourisme qui a été instauré pour favoriser ce règlement amiable des litiges. L'autre point important, c'est que l'Union européenne a mis en place ce qu'elle a appelé le système des bons d'achat sur 12 mois. C'est-à-dire qu'elle donne aux consommateurs la possibilité, et aux agences de voyage, la possibilité, et aux compagnies, de donner des bons d'achat sur 1 an, c'est-à-dire de ne pas rembourser, mais de pouvoir bénéficier, et ça veut dire que là, c'est sûr, c'est sécure, on pourra donc bénéficier du même montant pour un autre voyage. Vous voyez, c'est toute une panoplie d'instruments. Et puis après, évidemment, si ça ne marche pas, mais est-ce que pour un billet d'avion à 100 € on va aller faire des démarches judiciaires? C'est pas sûr. En tout cas, pour toute autre démarche, il y a le deuxième pas, qui est la démarche judiciaire, où là aussi, le Centre européen peut donner tous les éléments pratiques.
Eh ben merci beaucoup Geneviève Saint-Hubert, secrétaire générale donc de la Maison de l'Europe à Toulouse. Vous avez vu, j'ai bien retenu.
Super.
D'avoir été aussi précise et de nous aider à toucher du doigt la présence de l'Europe. Quelques informations en cette fin d'émission pour faire écho à ce qui a été dit. Le numéro de téléphone à la région pour avoir des informations sur les plans en cours de la région avec le soutien de l'Europe ou pas, c'est le 08 00 31 31 01. 0800 31 31 01. La Maison de l'Europe à Toulouse, eh bien, c'est europe-toulouse.com.
EU.
.eu, pardon.
S'il vous plaît.
Europe-toulouse.eu. Europe-toulouse.eu. Et puis, pour tous les litiges qui concernent plus spécifiquement donc, les billets d'avion, je rappellerai juste donc, ce Centre européen des consommateurs. Vous retrouvez tout ça sur Internet. Un grand merci à vous. Cette
merci.
Émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.